Evgeny Malkin se déguise en agresseur et écope d'un match de suspension. Joe Thornton surpasse Gordie Howe pour le nombre de mentions d'air. Et demain matin, au Centre Vidéotron, la 60e édition du tournoi Pee-wee va débuter.
That's not careless, that's just dirty. And Malkin will pay a price in this game, and I believe in other games.
Dans le temps du carnaval, dans le temps du carnaval.
Au FM 93, vous écoutez l'avant-match avec Dan Pou.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'émission L'avant-match, émission numéro 2038. Évidemment, beaucoup d'action dans le monde du sport et je suis très content qu'on puisse recevoir dans l'émission de ce soir Antoine Vermette. Si vous suivez l'émission depuis un peu plus de 9 ans, vous connaissez le respect que j'ai à l'endroit d'Antoine Vermette. D'une part, le joueur de hockey, mais aussi l'individu. J'ai rarement vu dans ma vie un athlète professionnel être autant gentleman qu'Antoine Vermette. Et à ce sujet, je vous dirais que dans la région de Québec, on est très gâté versus ce qui se passe ailleurs au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde. Je veux dire ça comme ça. Il y en a de bonnes personnes partout, là, mais pensez aux joueurs de la région de Québec, aux joueurs de hockey, j'entends. Là. Je ne parle pas des athlètes amateurs. Là. Pensez aux joueurs de hockey qui ont fait carrière dans la Ligue nationale de hockey que vous avez pu côtoyer dans les dernières années. Simon Gagné, gentleman. Patrice Bergeron, gentleman. Philippe Boucher, gentleman. Antoine Vermette, gentleman. Finalement, qui d'autre dans la région de Québec, dans les dernières années, a joué dans la Ligue nationale? Jonathan Marchessault, très gentil, il joue actuellement. Là, je pensais plus à des retraités, fait que j'avais pas le réflexe Marchessault. Merci, Will. Sincèrement, on va parler avec Antoine Vermette sur l'annonce de sa retraite. On va lui jaser un peu plus tard dans l'émission. Vous avez entendu la toune des Pee-wee, hein? Quel tournoi impressionnant. Plus gros tournoi d'hockey mineur au monde. Ça débute demain pour 12 jours d'activité. On va jaser avec Patrick Dome plus tard dans l'émission. Et probablement que la tempête est en train de tracasser Patrick. Parce que pendant le tournoi Pee-wee, ça revient tout le temps de tempête. Et je suis pas certain que c'est l'idéal pour les organisateurs. Mais ceci dit, inquiétez-vous pas, il y en a vu d'autres. C'est le 60e tournoi qui commence demain. Et à compter de demain, j'attire votre attention sur une rubrique qui s'annonce intéressante. On va mettre de la pression un peu sur l'intervenant. Demain débute la 60e édition du tournoi international d'hockey Pee-wee. On va donc vous présenter une capsule chaque jour dans l'avant-match. Le 60e tournoi en 60 secondes.
Wow!
Avec le collègue Will Boivin. Donc, Will va passer ses journées dans les corridors du Centre Vidéotron. Non, c'est pas vrai. Will va nous résumer ce qui va se passer au Centre Vidéotron dans la journée, le soir, puis peut-être un peu le lendemain. Vous savez qu'il y a plusieurs gros noms qui vont être de passage à Québec dans les prochains jours. Je pense à Marcel Dionne, Raymond Bourque, les frères Henson, Vincent Lecavalier. Plusieurs gros noms seront de passage ici dans la région au cours des prochains jours pour le tournoi international de hockey Pee-wee de Québec.
Pour un plaisir sans égal, pour un plaisir sans égal. Rendez-vous donc au Colisée, je sais que vous serez content.
Et quand on parle de tournoi Pee-wee, on pense à des parents, on pense à des jeunes qui auront le bonheur de jouer sur la patinoire du Centre Vidéotron. On pense à une panoplie d'entraîneurs qui donnent du temps de façon bénévole pour entraîner ces jeunes-là. Mais vous allez me permettre cette année d'ajouter la confrérie des arbitres. Ça prend des arbitres pour arbitrer le tournoi. Et je salue P.O. Bouchard, qui est l'arbitre en chef depuis plusieurs années déjà du tournoi international d'hockey Pee-wee. Et c'est un gros tournoi qui est toujours bien arbitré et c'est grâce aux gens qui ont comme assignation des matchs au tournoi Pee-Wee. Ça doit être impressionnant d'arbitrer au tournoi Pee-Wee, j'en ai aucun doute. Mais les gens le font bien, puis je ne me souviens pas qu'il y a eu un scandale d'arbitrage au tournoi Pee-Wee, donc c'est bon pour la réputation du tournoi et la réputation, évidemment, de l'arbitrage. En vous parlant d'arbitrage, j'ai une pensée pour ce fameux guide lancé par Isabelle Charest et M. Ménard de Hockey Québec. Je ne pense pas que je vais développer beaucoup là-dessus. Je pense que c'est le gros bon sens qui devrait être la règle numéro un du comportement des parents dans les arénas. Et je trouve encore une fois qu'Hockey Québec n'a pas bien fait ses devoirs. Ils se sont retournés vers Iki Justice, une compagnie de Victoriaville. Ils se sont servis du gouvernement de la CAQ pour essayer de lancer leur message, alors qu'ils auraient bien pu faire ça seuls au cours des dernières années.
L'avant-match. Voici François Paquette.
François Paquette, chroniqueur sportif, également descripteur des matchs des Capitales l'été, à qui on parle chaque semaine dans l'avant-match. Salut François.
Salut Dan. Ça me fait penser plusieurs personnes que j'ai croisées cette semaine qui m'ont dit « Oh, le baseball s'en vient. Là. Le football est fini, on tombe d'une petite période creuse, mais les camps d'entraînement commencent pour le baseball. »
Au lendemain du Super Bowl, j'ai vu un reportage avec le président des Red Sox, je pense, et on voyait la vanne quitter Fenway Park avec tout l'équipement pour le camp d'entraînement. Là, je me suis dit, le baseball s'en vient.
Oui, ouais, puis il y a déjà des lanceurs et des receveurs qui sont arrivés à leur camp respectif, là, mais pour vraiment que les camps se mettent en branle, c'est un petit peu plus tard au mois de février, mais là, ça commence tranquillement. Puis c'est drôle parce qu'il y a des journalistes qui disaient, surtout ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, ils disent, autant t'as hâte que le camp d'entraînement commence, autant t'as hâte qu'ils finissent.
Ouais.
c'est le fun, tu revois ton monde, mais le camp d'entraînement, là, surtout quand tu sais pas mal qu'ils vont être les joueurs, qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, t'as hâte que ça commence pour le vrai, mais ça reste que ça, même si t'as parlé de météo tantôt, là, puis je sais que demain, ça annonce pas nécessairement comme une journée de baseball, mais ça s'en vient quand même à très grands pas.
Absolument. C'est toujours le fun, la saison de baseball, et j'ai eu beaucoup de bonheur à visiter des stades aux États-Unis, et je vous dirai, les auditeurs, puis vous êtes plusieurs à me dire qu'à chaque année, vous allez voir un match de baseball ou certains me disent qu'ils vont faire une expédition de football l'automne pour voir un match de la NFL. Mais je vous dirais que j'ai commencé à aller voir des matchs de baseball aux États-Unis, malheureusement, à partir de 2004, quand les Expos ont quitté Montréal.
Oui, oui. Mais les gens qui se promènent, j'en croise souvent des gens qui viennent au Stade Canac l'été qui me parlent de leur voyage. Puis le stade de San Francisco revient souvent dans les discussions, dans ceux qui ont été les plus appréciés. Là.
C'est un des
plus beaux. Puis je pense que c'est une question d'architecture, d'emplacement.
Oui.
C'est assez magique. Là.
Je dirais Pittsburgh revient souvent dans les discussions aussi.
Oui, puis Pittsburgh est peut-être plus réaliste aussi dans ce qu'on entrevoit pour Montréal. Là, je sais que aujourd'hui, là, on a commencé à parler là, que les gens du dossier Bronfman et compagnie ont trouvé leur terrain, à tout le moins ont fait leur demande. Mais il y a beaucoup de gens qui disaient, tu sais, Pittsburgh, c'est modeste, mais c'est très bien fait pour, tu sais, puis c'est pas trop gros, c'est bien fait. Eux, avec la vue sur le pont, il y a une vue extraordinaire. Je pense qu'on a vraiment, vraiment à Pittsburgh trouvé la formule magique pour les petits marchés, un peu comme Baltimore l'avait fait avec le Camden Yards dans les années 90. Puis ça avait un peu relancé l'idée de stade à toit ouvert, parce que les années 70-80 ont été des années de stade couvert, de gazon synthétique. Puis là, à partir des années 90, on est revenu à la vieille mode. Puis je pense que c'est bien comme ça. Baseball à ciel ouvert avec du gazon naturel, c'est ça le baseball pour tout le monde.
Absolument. François, parce que je sais que tu es capable d'en prendre, ce soir, j'ai préparé une série d'une dizaine de questions où tes réponses devront être un peu plus courtes qu'à l'habitude si on veut passer au travers de toutes mes questions. Mais c'est un genre de pour ou contre ou d'accord, pas d'accord. OK?
Parfait.
Je commence avec Evgeny Malkin. Un match de suspension. Suffisant selon toi?
Non, pas d'accord. Moi, je pense que si ça avait été n'importe qui d'autre, ça aurait été plus sévère. La Ligue nationale va probablement dire, tu sais, que on l'a pas, il l'a pas atteint de plein fouet, mais le geste
est le même.
Là. Moi, ça aurait été certainement un deux ou trois matchs de suspension.
Mais le geste est le même. Si le gars, c'est Michael Raffles, je pense, qui a passé proche de se faire tuer, ben, s'il tombe en commotion puis il joue pas pendant 4 mois, c'est quoi la suspension?
Ah, il aurait probablement eu 5 matchs, je pense, si l'autre avait été blessé sérieusement. Hey, parce que, tu sais, les gens qui n'ont peut-être pas vu la reprise, là, c'est à une main, mais c'est toutes ses forces à une main, un peu en signe de frustration. Écoute, s'il frappe de plein fouet, là, dans mâchoire ou quelque chose comme ça, il aurait cassé des dents, certains. Moi, je pense honnêtement que ça aurait mérité plus qu'un match de suspension.
OK, Alain Vigneault, entraîneur-chef des Ducks. D'accord ou pas d'accord?
Ben, écoute, c'est pas l'idée que j'ai en tête, puis de ce que je vois, puis de ce que j'entends, c'est que Dallas Eakins est le grand favori, là, celui qui avait coaché les Oilers avec le beau toupette, là. C'est un beau bonhomme qui parle bien, ouais, qui a beaucoup de succès à San Diego dans la filiale des Ducks. Je pense que c'est lui le candidat numéro un, mais c'est, sincèrement, je déteste pas l'idée. J'ai juste hâte de voir, Dan, quelle direction on va prendre chez les Ducks, parce que là, c'est le DG qui est à l'arrière du banc. On a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y avait plus aucun morning skate pour les Ducks. On ne patinera jamais, jamais en matinée, à part ceux qui veulent venir de façon volontaire. Fait qu'on a pas mal tiré la plug pour cette année. Mais oui, je déteste pas l'idée. Si Dallas Eakins n'a pas le poste, je pense que ça pourrait être un candidat très intéressant pour les Ducks.
OK, les Islanders, 5e au classement général. Feu de paille ou pas?
Ça, c'est une bonne question. Feu de paille ou pas? Non, je pense, je vais dire non, parce que moi, là, ce que j'ai vu de statistiques depuis la fin du mois de décembre, les deux meilleurs gardiens dans la division métropolitaine au niveau du pourcentage d'arrêt, c'est Robin Lehner puis Thomas Greiss. C'est peut-être là la différence, c'est que les deux sont en très grande confiance. Barry Trotz a changé le système de jeu aussi. On va s'entendre, Dan, que si t'es un wild card dans la conférence, t'as mieux affronté les Islanders champions de division que le Lightning de Tampa Bay, mais je pense qu'ils sont meilleurs que ce qu'on aurait cru, donc je dis non, c'est pas un feu de paille.
OK. Dale Louise à Montréal, d'accord ou pas?
Oui, d'accord. Honnêtement, puis sans rien enlever à Agostino et Chaput qui ont fait du travail très respectable sur la 4e ligne. Delaurier, Thompson, Weiss, moi je trouve ça très intéressant comme 4e trio. Thompson gagne les mises en jeu, puis il y a quelqu'un qui avait la réflexion, il dit Thompson, c'est pas compliqué, quand il est sur la glace, il a jamais de but, ni de son bord, ni de l'autre bord. Fait que c'est comme 4e trio, c'est comme parfait. J'ai juste hâte de voir la place qui va revenir à Charles Hudon. Les rumeurs circulent que le Canadien le magazine, là, mais je comprends pourquoi on est allé chercher Thompson. Ça n'a à peu près rien coûté, puis ça va aider le Canadien, entre autres, sur le 4e trio et également les mises au jeu.
OK, tu as un seul choix. Tu prends Jonathan Huberdeau d'ici la date limite de transaction avec cette année et 4 autres saisons à 5,9 millions par année. Il y a un prix à ça. Je peux pas t'établir le prix ce soir. Ou tu prends Panarin avec 2 mois de contrat.
Oh, ça, c'est une très bonne question. Sincèrement, là, je suis pas un amateur de longs contrats, puis de, tu sais, d'absorber, comme tu dis, un 5,9 pendant encore 4 ans. Mais je pense que, définitivement, si le prix se ressemblait, je préfère quand même avoir Huberdeau à long terme. Tu sais, il joue bien, il joue de mieux en mieux, mais il y a quelque chose qui clique pas en Floride, puis je sais pas si, c'est pas juste au niveau personnel, c'est au niveau équipe aussi, là, tu sais, qu'il manque quelque chose, puis c'est peut-être un gardien de but, mais je pense que Jonathan Huberdeau a encore une très bonne valeur, encore de très bonnes années. Panarin, toujours dit, c'est le personnage qui m'inquiète un peu. Pour 2 mois, écoute, pour une longue run en série, ça peut être intéressant, mais je pense que le prix, c'est trop cher à payer, parce que déjà, il a annoncé que lui, il voulait aller sur le marché des joueurs autonomes, donc je pense que je prendrais Huberdeau.
OK, Joe Thornton, hier, dépasse Gordie Howe, 9e de tous les temps pour les mentions d'aide. Joe Thornton, pour toi, c'est un joueur sous-estimé ou surestimé?
Bien, je pense que c'est un joueur sous-estimé, parce que pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce que Joe Thornton est un gars qui va aboutir au temple de la renommée? Puis des soirées comme hier, où tu dis, voyons donc, il est rendu, tu sais, 7e pour les points, ou tu sais, les assistances, puis des affaires comme ça, tu dis, voyons donc, ça, c'est sûr que Joe Thornton va aboutir au temple de la renommée, peu importe que le ce qui se passe le reste de sa carrière. Et c'est la première année a été fascinante. Dan, tu te rappelles, à Boston, il y avait eu 7 points avec Pat Burns comme coach, il avait presque pas joué. Ça a mal été à Boston, puis la transaction qu'il l'envoyer à San Jose a changé sa carrière. Donc, moi, je pense que c'est un gars qui va finir au temple de la renommée, puis qui a souvent été sous-estimé, peut-être parce qu'il jouait dans un marché comme San Jose, mais ça a été un très, très, très bon guerrier dans la Ligue nationale.
Louis Leblanc fait une sortie aujourd'hui sur le site de Radio-Canada, dans la plateforme Podium. Il exprime ses états d'âme 2 ans après avoir annoncé sa retraite. Pour toi, Louis Leblanc n'a pas saisi sa chance ou il n'a pas eu sa chance?
Moi, je vais dire, il n'a pas eu sa chance. Puis Dan, j'étais un peu biaisé parce que j'ai lu ce texte-là aujourd'hui puis j'ai trouvé ça excellent. Pour les gens qui ne l'ont pas vu, prenez le temps. Moi, je trouve que dans le cas de Louis Leblanc, évidemment, il y a eu une tonne de pression sur ses épaules. 95% des gens qui ont chanté « Louis, Louis, Louis » le soir du repêchage, je l'avais jamais vu jouer au hockey. Et à partir du moment où il y a eu le changement dans la direction puis qu'on a fait le grand ménage, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a eu une perte de confiance envers Louis Leblanc. Donc, je pense qu'il aurait mérité de jouer plus que 50 matchs avec le Canadien. Puis, je ne dis pas qu'il aurait performé, mais je pense qu'il aurait mérité certainement d'avoir une chance un petit peu plus grande pour un gars qui avait été un choix de première ronde, un Québécois repêché par le Canadien. Prenez le temps d'aller lire ça. C'est vraiment très, très intéressant sur sa carrière.
Si je te donne le choix, t'es d'âge, puis oui, tu veux jouer pour les mini-nordiques ou les mini-remparts?
Au mini-nordique, sûr et certain, puis sans rien dans le beau rempart, c'était... écoute, je fais partie de la génération nordique, là. J'ai vu grandir, passer proche de gagner, puis partir. Certains, les nordiques, puis à l'époque, quand il y avait le tournoi, je pense, comment on l'appelait ça, la conférence Amérique, là, ou quelque chose comme ça, où c'était toutes les équipes de la Ligue nationale qui étaient là. Il y a eu, après ça, un break qu'on a pris, mais vraiment, là, ça, c'est des très, très, très bons souvenirs pour moi d'aller voir les petits nordiques au tournoi, puis oui, aucun doute, moi, ce serait petit nordique.
Mais les jeunes d'aujourd'hui, c'est les mini-remparts.
Ah, oh, puis c'est normal. C'est
ben
normal.
Oui, c'est normal. Ben oui,
écoute, ils connaissent pas les nordiques. En partant 95, les nordiques, ça veut dire qu'il y a bien des jeunes qui ont jamais connu ça. Moi, écoute, ça aurait été le rêve de tout petit cul de notre âge, c'était vraiment de représenter les petits nordiques au tournoi, puis oui.
OK, excuse-moi. Will me faisait remarquer à juste point, d'ailleurs. Tantôt, on parlait de Dallas Eakins. Je voulais y aller en rafale, mais j'en ai deux autres questions pour toi, François.
Oui.
Tantôt, on me disait, François a dit qu'il était bon dans la Ligue américaine avec San Diego. Il était bon dans la Ligue américaine aussi avec les Marlins. Le problème, c'est que quand il est arrivé avec les Oilers, il a dit aux gens là-bas, « Hey, savez-vous quoi? J'ai une idée. Tous les posters, toutes les affiches de Marc Messier, Paul Coffey et Wayne Gretzky, on va enlever ça pour repart à zéro. » Ça a bien été aussi.
Mais c'est des coachs très différents. Écoute, ça ne fit pas partout, ce genre d'entraîneur-là, de gars qui devant les médias, c'est quelqu'un qui s'exprime très bien, qui a une personnalité, des fois, qui est dure en bon français, on dit à 16. Puis Dallas Eakins, on remarque qu'il était dans une époque où les Oilers étaient dans une période creuse. Mais il y a de ces gars, Dan, puis c'est pas juste au hockey, là, dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui, quand arrivent à la dernière étape, ils sont pas capables. Puis si Dallas Eakins a sa chance avec les Ducks l'année prochaine, ça va probablement être sa dernière chance, parce que si ça fonctionne pas, ça va être terminé. Comme Glenn Gulodzin avec les Flames de Calgary, même genre de gars qui je pense, faisait très bien dans la Ligue américaine, mais qui a eu beaucoup de difficultés dans ses deux séjours dans la Ligue nationale de hockey.
OK, David Pastrnak est blessé au moins deux semaines, blessure à un pouce. Au même âge, au même salaire, Pastrnak ou Bergeron?
Oh, c'est une très bonne question. Écoute, je vais dire Bergeron parce que c'est un joueur qui est beaucoup plus complet. Mais Pastrnak, offensivement parlant, ce gars-là me fascine année après année. Puis je trouvais à un moment donné que depuis une ou deux années que les gens le repêchaient tôt dans les pôles qu'on faisait. Mais écoute, Pastrnak est quoi, 10e marqueur de la Ligue nationale? C'est un des meilleurs joueurs au talent brut au niveau offensif. Mais j'ai pas le choix de dire que Bergeron, tu sais qu'il peut faire aussi le travail offensivement, puis il n'y a personne qui peut le battre pour couvrir le meilleur trio de l'autre côté. Donc, je vais dire Patrice Bergeron.
Le gagnant du trophée Heisman, Kyler Murray, a déclaré qu'il se commettait à temps plein pour le repêchage de la NFL. Ça sous-entend qu'il va devoir rembourser 90% du boni que les Aces lui avaient donné. Si toi, tu es Kyler Murray, tu joues au baseball ou au football?
Ben écoute, personnellement, puis c'est pas un choix au niveau de la popularité du sport que j'aime le plus, mais je prendrais le baseball simplement pour une question de santé. Je pense que, et puis Kyler Murray est très honnête en disant que le football, c'est son sport, puis il veut être carrière dans la NFL, mais c'est certain qu'au niveau financier aussi, c'est une décision qui est beaucoup plus facile, parce que il va signer un contrat énorme comparativement à ce qu'il y a eu comme Bonnie avec les A's. Ça va être un contrat énorme, peu importe s'il est repêché 5, 10 ou 20, mais tu sais, il va être repêché en première ronde. Mais côté santé, Dan, je pense que c'est là que ça me surprend le plus, parce que Murray est très petit. C'est un gars qui va se faire brasser dans la NFL, c'est sûr et certain. Tu penses toujours aux blessures sérieuses, puis au tout ce qu'on voit dans les après-carrières. Moi, je pense que le baseball, évidemment, c'est très différent comme sport. C'est pas physique de la même façon, mais pas du tout. Mais le baseball, c'est souvent, ça peut être 3, 4, 5 ans dans les mineurs avant de te retrouver dans les grandes ligues. C'est un chemin qui est très différent. Kyler Murray va être repêché en première ronde, puis il va probablement être partant l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, c'est très différent. Mais moi, j'aurais pris le baseball simplement pour une question de santé.
OK, le dernier, c'est pas tu choisis, c'est un fait, c'est une vérité. C'est une question piège, par contre. Il y a deux défenseurs dans le top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire. Lequel a le plus de points, Bourque ou Coffey?
Oh, c'est une très bonne question. Hey boy, je vais prendre Paul Coffey.
1135 passes pour Paul Coffey, mais 1169 pour Raymond Bourque.
OK, ils sont vraiment,
c'était
vraiment
proche, hein, c'était une question piège. Là.
Mais tu prends les deux défenseurs, là, tu mets ça, t'en fais un avec les deux. Là, t'aurais le défenseur parfait au niveau coup de patin, offensif, défensif. C'est deux excellents défenseurs.
Le seul endroit où tu peux avoir ça, c'est au PlayStation.
Oui.
Merci François, bonne soirée à toi.
Salut Dan, bonne soirée.
Salut bien. On écoute maintenant Day-Louise, le nouveau venu chez le Canadien, Philippe Dano, puis Claude Julien, tabarouette. Une panoplie d'extraits présentés par Will qu'on vous présente à l'instant.
Avant chaque match, à Québec, on écoute Dan.
I just feel revived. I don't really want to talk about the past in Philly the last 2 years. I'm always looking forward, and you guys know me, I'm a pretty positive guy, and this is going to be awesome for me. Couldn't have came at a better time.
Il est extrêmement heureux d'être ici. Il est excité. Le rôle qu'on va lui donner, je pense qu'il va, l'adorer. Alors, ces choses-là, ça risque de nous aider.
Non, je suis pas surpris. Je pense qu'il avait très bien fait ici dans le temps. Je sais pas combien de temps ça fait exactement. 4 ans? Depuis moi.
Ouais. FM 93. L'avant-match avec Dan Poux. L'avant-match est présenté par Pièces d'auto économique. Les mêmes grandes marques qu'ailleurs, mais toujours moins chères. Pièces d'auto économique, 4 magasins dans la région et une boutique en ligne à pièceséconomique.com.
Un menu Saint-Valentin gourmand, digne des plus grands restaurants, à fignoler et à déguster à la maison. Une délicieuse proposition du traiteur de gourmandes. En quelques étapes simples, épatez l'être aimé. Commandez au 418-687-3389, degourmande.ca.
Saviez-vous que la majorité des clients en deuxième et troisième chance au crédit n'ont pas la possibilité de choisir leur véhicule ou d'en connaître le prix réel? Chez Groupe Saillant Auto Crédit, vous avez accès à l'inventaire de tous les véhicules neufs et d'occasion des 4 concessions du Groupe Saillant. Lorry Mazda, Sainte-Foy Toyota, Option Subaru et Sainte-Foy Hyundai. Des véhicules d'occasion inspectés, réparés, reconditionnés, certifiés et surtout au même prix, peu importe votre dossier de crédit. Parce que rebâtir votre crédit, c'est ce qu'on fait dans la vie. Groupe Saillant Auto Crédit.com.
Pour les soirées Vegas, le casino met le paquet. Mais attendez, j'ai pas fini. Avec 1 000 000 $! Jusqu'au 23 février, 18 ans et plus, détails sur casino-de-charlevoix.ca.
Ah, pire, mais non, l'éléphant!
Enfin, notre premier voyage en VR, c'est un départ!
Oui! Ben, sur le klaxon, mon Gaston!
As-tu le GPS?
Le GPS? Oh, pas besoin! On va se guider avec les étoiles!
Ah, bonne idée!
Voici Marie et Gaston. À l'occasion, ils aiment prendre de petits risques, mais pas lorsqu'il s'agit de réaliser leur projet de parcourir le Québec en VR. Leur projet est devenu réalité grâce au REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Visitez le site web d'Épargne Placement Québec pour réaliser vous aussi votre projet.
Hey, pour la Saint-Valentin, là, Matt et moi, on a combiné nos deux forfaits mobiles chez Vidéotron. On a reçu 2 Google Pixel 3 à 0$, 2 gigs en prime et 2 mois gratuits. C'est comme si on était mariés, là, je capote.
Hey, pour la Saint-Valentin, là, Julie et moi, on a combiné nos deux forfaits mobiles chez Vidéotron. On a reçu 2 Google Pixel 3 à 0$, 2 gigs en prime et 2 mois gratuits. C'est comme si on était mariés. Je capote.
L'offre pour deux de Vidéotron, c'est jusqu'au 14 février. Les conditions s'appliquent. Vidéotron.
Avec un trio Ford aussi brillant, on fait de tout client tout un gagnant.
Et encore plus gagnant en février. Occasion de se gâter, rendre les grosses tâches faciles au chantier ou en week-end plein air, gâtez-vous avec le Ford F-150 Crew Cab 2019 en location de 36 mois à seulement 265$ aux 2 semaines. 0 comptant requis. Oui, à ce prix-là, on peut se gâter. Détails de l'offre sur place. Desjardins Autocollection, Sainte-Foy Ford ou l'Ange Gardien Ford.
C'est facile d'embarquer avec.
Des maladies peuvent survenir à la suite de commotions cérébrales, dont le Parkinson, l'Alzheimer et la SLA. Pour les prévenir, la Fondation du CHU de Québec lance un projet rassembleur qui supporte une recherche innovante sur les commotions cérébrales. François Drolette, Simon Gagné, Guillaume Rioux, Charles Fortier, Michel Laplante et Louis Garneau se joignent à la Fondation pour ce projet. Supportez une de ses vedettes sportives et courez la chance de gagner un moment privilégié en sa compagnie et 5 000 $ offerts par Voyage Arabais. Info sur projetsportif.org.
Chez Kia Québec, Sunfoy et Val-Bélair, venez vivre le bonheur d'en avoir pour votre argent. Découvrez la Forte 2019, meilleure voiture compacte de l'année selon l'AJAC. Bien équipé, incluant climatiseur, pour $18,295 durant l'événement Domptez l'hiver. Et on est ouvert le samedi.
Un menu Saint-Valentin gourmand, digne des plus grands restaurants, à fignoler et à déguster à la maison. Une délicieuse proposition du traiteur de gourmandes. En quelques étapes simples, épatez l'être aimé. Commandez au 418-687-3389, degourmande.ca.
T'as mal aux pieds sur le chantier? Imagine Fred Caillou travaillait nu-pieds. Toi, va voir les orthésistes du pied de Québec. Ils vont te fabriquer des bottes sur mesure, puis c'est couvert par les assurances. Les orthésistes du pied de Québec, 375, Soumande.
Chez Honda de Giro, la Civic, la plus vendue au pays depuis 21 ans, est en location à partir de seulement 0,99% jusqu'à 36 mois. Honda de Giro, toujours ouvert le samedi.
Spectacle, festival, événement. Quand ça bouge à Québec, le FM 93 est de la partie.
Du 20 au 24 février, visitez Expo Habitat Québec. Découvrez le nouveau quartier des maisons. Inspirez-vous des dernières tendances et profitez des conseils de nos experts en habitation. Et avec plus de $70,000 en rabais et promotions, c'est votre maison qui vous remerciera.
Les événements de Québec, propulsés par le FM 93. FM 93, ça me parle. Dan Pour, c'est l'entraîneur, le fan, le gérant des stades. Le journaliste au FM 93, vous écoutez l'avant-match.
Et c'est vrai, j'ai été choyé tout au long de ma carrière. Je pourrais énumérer des moments importants tout au long de ma carrière, que ce soit des petits moments, des moments importants à toutes les formations à lesquelles j'ai eu la chance d'évoluer.
Ce que vous venez d'entendre, c'est Antoine Vermette qui, le 31 janvier dernier, annonçait sa retraite. On le joint à l'instant au téléphone. Salut Antoine!
Salut Dan, ça va bien?
Ça va bien toi?
Très bien, merci.
Comment ça va, la nouvelle vie de retraité?
Ah, ça va bien. Ça va pas différemment que les derniers mois, mais ça va excessivement bien. Merci beaucoup.
OK. On s'est parlé au mois de septembre. Tu m'as dit, ouais, je vais analyser les options, mais il va falloir que ce soit des conditions gagnantes. Est-ce que tu as eu plusieurs options pour jouer au hockey cette année ou c'était plutôt mince? Puis à quel moment, tu nous l'as annoncé il y a une dizaine de jours, mais à quel moment... Avec ta femme, tu t'es assis et t'as dit « OK, là, c'est fini, j'en jouerai plus au hockey. »
Oui, bien, c'est une bonne question. En fait, mon processus, comme tu as pu le comprendre à ce moment-là, mon idée était faite. Puis je voulais m'assurer avant de l'annoncer là, publiquement, officiellement, que, tu sais, que c'était clos. Dans ma tête, c'était réglé à ce moment-là. Effectivement, j'ai eu des opportunités de poursuivre ma carrière, puis j'en suis très reconnaissant. Mais cette idée-là, en fait, s'est pointée un peu en fin de saison l'année dernière. Après la saison, j'ai un peu analysé où est-ce que je me situais à travers la carrière que j'ai pu avoir jusqu'à ce moment-là, où est-ce que je me trouvais personnellement, avec ma famille également. Je trouvais que le timing était bon pour offrir une stabilité pour mes enfants, commencer l'école, puis en même temps on attendait du nouveau durant l'hiver. Fait que je voulais pas précipiter, par exemple, les choses pour autant. C'est une grosse décision, bien entendu. Fait que je voulais m'assurer de faire les choses dans l'ordre. Mais je te dirais, après avoir discuté avec mon épouse, puis mon agent, en fait, j'ai accordé un petit peu plus de temps à mon agent, parce que moi c'était réglé avant, mais il voulait que je patiente avant de l'annoncer officiellement et tout ça. Fait que mais en septembre, j'ai accordé jusqu'en début septembre. Donc quand on s'est parlé, mon idée était faite.
Oui, OK, parfait. T'es en Arizona actuellement. Est-ce que je comprends que ta nouvelle vie, ce sera en Arizona?
Écoute, partiellement. Possiblement, mais c'est sûr que je reviens à Québec. C'est une base régulière l'été, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas encore. On est encore dans une période, une couple d'années là, de transition, d'adaptation, puis tout ça. Je trouve que l'idée est quand même bonne d'offrir des bases solides pour mes enfants pour la langue anglaise. Mais en même temps, je ne veux pas que ça se fasse au détriment de la langue française. Fait que j'en ai un peu comment... se positionne tout le monde là-dedans, puis on va prendre une décision dans les prochaines années là, qui va se présenter devant nous.
OK. Antoine, quand tu dis « je voulais prioriser la famille », c'est tout à ton honneur, mais est-ce que ça sous-entend, est-ce que cette réponse-là, je dois lire entre les lignes que dans les prochaines années, là, on va dire 3, 4, 5, 10 ans, il n'y a aucune chance ou très peu de chance qu'on apprenne qu'Antoine Vermette a accepté une job comme entraîneur adjoint, recruteur ou ben coach à un autre niveau. Là.
Ben ça c'est un autre. Je veux laisser le temps faire les choses, mais effectivement, dans toutes les possibilités, ce qui a trait à mon futur, il y a une certitude qui est je veux pas m'embarquer, je veux pas m'imposer des responsabilités à court terme. Donc, tu sais, je veux vraiment être présent. Ralentir un peu le temps, puis le temps passe tellement vite. Je veux prendre le temps de coucher mes enfants le soir, puis déjeuner avec les autres le lendemain matin. Je me sens excessivement privilégié de pouvoir le faire. C'est que je compte d'en profiter au maximum, mais ceci étant dit, je ferme pas aucune porte non plus. Je sais pas comment les choses vont se présenter. Ben, éventuellement, peut-être qu'ils vont être écœurés de me voir à la maison tout le temps. Mais je vais voir comment ça se présente. Puis tu faisais allusion au hockey, bien entendu. C'est une passion, c'est l'amour du sport a toujours été, puis ça demeure encore, toujours présent. Fait qu'il y a toujours un intérêt de ce côté-là. D'ailleurs, probablement je regarde du hockey plus présentement que j'en regardais quand je jouais. Je sais pas si je m'offrais un certain équilibre quand je jouais. Pas nécessairement la première chose qui venait en tête dans les journées de congé, par exemple. Je trouvais que c'était peut-être sain de prendre un pas de recul quand je jouais. Mais là, évidemment, je suis un peu ce qui se passe à travers la ligue, les tendances, puis tout ça, les nouveaux joueurs. Donc, c'est une passion, puis c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, maintenant, effectivement, pour revenir à ta question, dans les prochaines années à court terme, c'est pas mon plan, c'est pas ce que je veux faire. Je vais analyser les options. En même temps, je ferme pas les portes. Éventuellement, peut-être que dans une couple d'années plus tard, je vais dire, ben écoute, finalement, j'ai besoin d'autres défis professionnels, puis j'ai goût de me lancer dans une autre aventure. Je vais l'analyser okay. À ce moment-là avec mon conjoint.
Antoine, y a-t-il des activités, pendant qu'on joue au hockey dans la Ligue nationale pendant 15 ans, y a-t-il des activités qu'on se dit, Colin, quand je vais être à la retraite, là je peux pas actuellement pour différentes raisons. Là. Un, il faut pas que je me blesse. Puis deux, on n'a pas le temps parce qu'on est tout le temps parti à l'extérieur où on joue des matchs à la maison puis il y a des pratiques au travers de ça. Y a-tu des activités que tu avais ciblées où tu disais, quand je vais être retraité, ça, je vais en faire pas mal plus?
Ben, tu sais, des fois, là, c'est oui, c'est vrai. Vite de même, là, ce qui me vient en tête, là, la dernière fois que j'ai fait du ski, là, je m'en souviens pas.
OK.
Tu sais, je voulais pas prendre de chance, évidemment, ça aurait été un peu prendre un risque. Là. Tu sais, tu te blesses, c'est jamais une bonne idée dans ce sens-là. Effectivement, il y a des activités que tu sais, tu gardes en tête l'objectif, c'est quoi tu fais, fait que t'élimines les chances de blessure. Mais bien souvent, c'est dans des petits détails, tu sais, je m'imposais un régiment, une discipline. Ça, des fois dans l'été, tu sais, ça dépasse. Pas nécessairement juste le contexte de la saison en tant que tel, évidemment avec le voyagement puis tout ça c'est contraignant dans ton horaire, mais l'été également, tu sais, moi ben c'était ma job pareil qui se poursuivait, je m'entraînais puis j'avais une certaine discipline puis je savais ce que j'avais à faire pour me préparer en fonction de ce que je voulais accomplir pour la saison. Donc tu sais des fois bon ma soeur repartait, hey, on voit que les enfants on s'en va faire un petit voyage familial, ça serait le fun. Ben non, tu sais. J'aimerais okay. ça, Colin, okay. mais ouais. tu sais, j'ai pris une décision, j'y vais jusqu'au bout là-dedans. Une couple d'années, ben là, ça va ouvrir des possibilités. Ça, c'est un exemple qui me vient en tête comme ça, mais il
ouais,
y en a plein comme
ouais,
ça. Tu sais, des fois,
ouais.
des amis qui ont des activités, ouais. À gauche, à droite, ben là, je vais être beaucoup plus présent que je l'étais dans le passé.
OK. Est-ce que tu pensais en maternelle que tu allais prendre ta retraite à 36 ans?
Non, c'est sûr que non. Ça fait très bizarre de dire ça, là. C'est bien certain, mais c'est un peu particulier.
Est-ce que, quand on était jeune, je reste avec l'école primaire, ça me passe par la tête, Antoine.
Ouais.
Quand on est jeune, puis les profs, des fois, ou même nos parents nous demandent, tu veux faire quoi quand tu vas être grand? Est-ce que toi, tu répondais à joueur d'hockey de la Ligue nationale?
Oui, mais avec beaucoup de... C'est sûr que t'as une certaine naïveté, mais en même temps, c'est un rêve que tu chéris, tu, sais,
ouais.
tu y crois, parce que
ouais.
pour y atteindre, tu sais, tu peux pas y croire d'un certain niveau, mais tu sais, t'es conscient aussi, puis je suis très reconnaissant avec ce qui a été inculqué à la maison. Oui, j'avais du succès au hockey, mais les études, c'était la priorité, il fallait que je sois bon à l'école. Et évidemment, il y a une panoplie d'histoires comme ça, que t'as des enfants qui performent bien dans le sport, dans du hockey. La très vaste majorité de ces personnes-là, ils n'arrivent pas à jouer dans le national. Ça, c'est bien sûr. Fait que j'avais ça quand même en arrière de la tête. Sauf que, effectivement, la première chose que je voulais faire, c'était bel et bien ça. Puis c'est drôle que tu me poses cette question-là, Dan, parce que présentement, mais dis-toi, on a de la visite, c'est le fun. En Arizona, ça arrive de temps en temps que le monde du Québec se dit c'est le fun, vous des disponibilités. Fait que, mais on est très choyés, en fait. On a eu un petit bébé, puis les beaux-parents sont avec nous présentement. Puis je me souviens, dans les premières années, que j'allais souper chez eux. Le beau-père, tu sais, je passais au test en ce temps-là un peu. Il disait, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, je veux jouer au hockey. Mais tu sais, lui, il croyait pas à ça pantoute. Je le blâme pas, c'était quand même une réponse quand même qui était très peu probable. Fait que je voyais un peu comment les choses se déroulaient à ce moment-là. J'avais des chances, j'y croyais, puis tout ça. Fait que c'était mon rêve. Puis oui, c'est un peu la réponse, mais je me gardais une grande réserve, en fait, que c'est sûr, c'est ce que je veux faire, mais tu sais, je vais à l'école, puis je fais mon cheminement là-dedans. Donc, éventuellement, bon, je prendrai une décision, mais je savais que c'était quand même un rêve qui était atteignable, parce qu'il y en a qui le font, mais difficilement atteignable, en fait.
OK. Antoine, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, de plus en plus de spécialistes, entre autres des universités américaines, puis je pense que récemment, c'est Eric Lindros qui a fait une sortie à ce sujet-là. Moi, au meilleur de mes compétences sportives, j'essaie d'encourager les parents à faire bouger leurs enfants, mais dans d'autres sports que le hockey seulement. Qu'est-ce que tu penses de ça, des jeunes qui pratiquent plusieurs sports, on les appelle multisports en anglais, là, mais des jeunes qui développent une dextérité ou des habiletés dans d'autres sports que seulement le hockey?
Moi, j'adore à ça, 100 000 à l'heure. Je vois le bénéfice de sortir un peu le jeune de sa zone de confort, peut-être, au niveau athlétique. Puis même, je dirais, je pousserais l'analyse encore plus loin. Au niveau social, tu sais, évidemment, il doit créer des liens, des affinités, des amis. Puis c'est souvent la même gang, tu sais, t'avances dans le fil du temps avec tes mêmes amis. Mais peut-être changer de contexte aussi, ça apporte son lot de défis que je valorise énormément. Je pense que ça peut être bénéfique pour l'individu en tant que tel, mais pour strictement au niveau talent ou habileté physique, là, dextérité, je crois que c'est bénéfique de faire aux jeunes d'autres choses aussi. En même temps, si tu veux pas non plus. Évidemment, s'il y a une passion puis il aime ça, il va trouver un moyen de se pratiquer puis peaufiner ses habiletés, mais je vois un côté positif de faire autre chose aussi.
OK, Antoine, tu as joué deux fois avec les Coyotes de l'Arizona dans ta carrière. Tu nous parles en direct de l'Arizona actuellement. Les Coyotes, c'est un marché vulnérable depuis une dizaine d'années. J'ai commencé à arbitrer au hockey mineur dans la région de Québec. J'ai arbitré au tournoi Atome de Lévis-Lauzon la semaine dernière. Il y avait de la musique, il y avait de l'ambiance, c'était le fun. Mon souvenir de joueur de hockey, c'est qu'au tournoi Midget de Beauport ou au tournoi Bantam de Sherbrooke, il y avait beaucoup d'ambiance. Comment on peut jouer dans la Ligue nationale, peu importe les millions qu'on vous verse à chaque deux semaines, ça n'a pas de lien, ça n'a pas d'importance. Comment on peut jouer dans la Ligue nationale, être un compétiteur comme toi, un gars qui aspirait à gagner la Coupe, qui l'a même gagné avec les Blackhawks, et jouer devant d'aussi petites foules et être encore motivé?
Ah, bien, ça, c'est une façon de voir, c'est une bonne question également. Mais pour vrai, là, si tu te rends jusque-là avec tous les sacrifices et les efforts nécessaires qui sont nécessaires pour se rendre là, si tu as besoin d'avoir une couple de personnes de plus dans les estrades pour te motiver, ben je pense qu'il y a un problème.
OK. Mais avoue que c'est plus le fun. C'est plus le fun quand il y en a.
C'est plus le fun. Il n'y a aucun doute là-dessus. On carbure tout à ça. On trouve ça excitant. C'est le fun. On adore ça quand les foules sont là, les partisans. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais par contre, si tu as moins de goût de gagner, tu sais, si on veut généraliser, faire ça grossièrement, si tu as moins de goût de gagner la Coupe Stanley, parce que à soir, il y avait moins de monde dans les estrades, tu comprends, la réflexion est...
T'es pas à bonne place.
C'est boiteux. T'es pas à bonne place, en plein ça. Okay. Puis, mais est très, très juste et justifié parce que, faire un parallèle puis un suivi, quand j'ai eu le privilège, en fait, de commencer ma carrière avec Ottawa, puis on avait des années, on avait une excellente équipe année après année. Puis, tu sais, je viens de Québec, la neige, puis tout ça, Ottawa, c'est pareil, c'est facile. T'associes ça au hockey facilement. Et j'avais cette réflexion-là, puis j'avais des discussions avec mes coéquipiers. Je me disais, hey, c'est donc bien bizarre, on va, tu sais, on arrive à des places, le soleil, pas de neige. déstabilisant au bout. Comment que les gars gèrent ça, tout ça?
Ouais.
Puis avec les années, mais j'ai compris que pour te rendre là, ben, t'es un professionnel du début à la fin, puis tu gères ça comme t'as géré. Puis c'est pas si problématique que ça peut-être le paraître.
OK. Quand t'as commencé avec les Sénateurs, t'es parfaitement conscient que c'est une business, là, OK? Mais est-ce que tu oui. pensais être un joueur des Sénateurs toute ta carrière?
Ben, c'est sûr que, tu sais, tu souhaites ça, tu penses ça, tu penses que, bon, mais en même temps, t'es conscient, mais c'est comme si tu réalises que il y a toujours des changements, hein, on suit ça chaque année, chaque ouais. équipe font des changements, c'est inévitable, mais il y a une partie d'innocence un peu qui est peut-être avec le jeune âge, tu dis, on se fait repêcher, je regarde mes coéquipiers, on va grandir ensemble, on faisait partie d'une très bonne organisation, on avait d'excellentes équipes, et dans un monde idéal, si on ne gagne pas la coupe à toutes les années, on va gagner aux deux ans, fait que c'est sûr que tu comprends, c'est pas la réalité qui frappe, mais je pense qu'à un certain niveau, il y a beaucoup de joueurs qui ils veulent espérer ça.
OK. Quand tu as été changé au Blackhawks, est-ce que c'est à ta demande ou c'est à la demande du DG? Évidemment, ça t'a donné une coupe Stanley, pas donné. On t'a pas fait un cadeau, t'as travaillé fort pour l'avoir avec ta gang de chums, mais gagner la coupe Stanley, c'est un fait marquant d'une carrière, là.
Ouais, non, c'est sûr. Puis je me rapporte un peu à mon processus décisionnel que j'ai pris ma décision. Dan, je t'apprendrai rien que si j'enlève la coupe cette année de l'équation, je suis ailleurs, là, j'ai pas cette réflexion-là.
T'es encore dans la Ligue nationale, puis peut-être que t'essaierais de jouer dans une équipe compétitive.
C'est sûr que tu te dis, tant que tu te rends aussi loin, puis travailler fort, puis tu sais, j'ai été privilégié, il y a des gars qui font le parcours, ils mettent autant d'efforts, puis tout ça, puis ils ont des super de belles carrières. Ils n'ont pas l'opportunité de le faire. Donc, c'est vraiment difficile. C'est un peu l'attrait qui fait que c'est tellement spécial de le gagner. Mais non, pour revenir un peu, c'était pas ma décision. J'ai pas dit avec Don Maloney, quoi qu'ils ont été excessivement très respectueux tout au long du processus.
OK.
Mais je savais où ce que j'allais aboutir à une place qui voulait rappeler des grands honneurs.
OK.
Je savais que Chicago était dans les pourparlers, mais la décision ne me revenait pas.
Parfait. Un gros merci, Antoine, de nous avoir parlé. Très apprécié. Bonne soirée à toi.
Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
À bientôt. Antoine Vermette, nouveau jeune retraité de la LNH.
Au FM 93. Ready? L'avant-match avec Dan Pou.
Économisez 10 000 $ en argent et 80 % sur vos coûts d'essence. C'est pas une blague, c'est ce qui vous attend avec le Outlander PHEV de chez Québec Mitsubishi. Polyvalent, économique, plaisant à conduire. Puis en plus, Québec Mitsubishi augmente la meilleure garantie de l'industrie pour vous. Obtenez la garantie prolongée sans frais et économisez 2 600 $. En plus, les démonstrateurs RVR 2018 sont en liquidation puis le financement est à 0 % sur la plupart des modèles. Les économies, ça se passe chez Québec Mitsubishi.
Éric Duhem et Patricia de Guara.
Ah, Patricia, je suis tellement content de te parler.
Moi aussi, Éric, j'avais hâte. Surtout que tu connais bien l'immobilier.
Ben, pas autant que toi, mais j'adore ça. Patricia, dis-moi, c'est quoi ton secret pour vendre autant puis pour qu'on te voit partout?
C'est pas compliqué, Éric. Ça fait 25 ans que je suis dans le marché de Québec et je suis toujours aussi passionnée. À coup d'audace, je vends. Mais dis-moi, Éric, tu voulais me faire visiter un de tes condos?
Oui, j'ai hâte d'avoir les conseils de la meilleure.
Pour vendre ou acheter, contactez Patricia de Guara. Visitez Patricia et son équipe.com.
Faire de la motoneige skidoo, c'est une expérience unique. Avec la puissance extrême que procurent les moteurs Rotax, combinée à l'agilité et à la maniabilité exceptionnelle de la révolutionnaire plateforme REV Gen 4, à chaque ligne droite et à chaque virage serré, vous comprendrez ce que représente pour nous l'expression « c'est tellement skidoo ». Visitez Dion Moto pendant notre vente célébration d'hiver pour obtenir jusqu'à 2019 $ de rabais ou 0 % de financement pour 60 mois sur les modèles Skidoo 2019 sélectionnés. L'offre prend fin le 28 février 2019. Des restrictions s'appliquent. Détails chez Dion Moto.
Es-tu canac? Si t'as les valeurs aux bonnes places, que t'aimes aider les gens avec leurs projets, passe nous voir et apporte ton CV pour la Journée provinciale de recrutement. Commis, caissière, cours à boire, livreur, le 13 février prochain dans tous les canacs, on t'attend.
Pour une Saint-Valentin remplie de fleurs et d'amour, facile, floraliejouvence.ca.
Pour une Saint-Valentin unique et sympathique, c'est simple, floraliejouvence.ca. Commandez vos fleurs en ligne dès maintenant, c'est rapide. Dites-lui « Je t'aime avec des fleurs », signé Floraliejouvence. En un seul clic, vous aurez les plus beaux arrangements et le plus grand choix de fleurs à Québec et Lévis. Commandez en ligne dès maintenant.
Pour la Saint-Valentin, surprenez votre douce moitié en lui faisant livrer un bouquet signé Floraliejouvence. Commandez en ligne dès maintenant.
Land Rover de Québec.
La bonne affaire de février. Le Range Rover Evoque 2019. Une location de 42 mois, 16 000 km par année, 0 $ de comptant à partir de 315 $ aux deux semaines avant taxes. Et la bonne affaire, on paye vos deux premiers mois de location. Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez. Land Rover de Québec, 225 Étienne Dubreuil.
Land Rover, tellement plus accessible que vous pensiez.
Je suis avec Michel de Céramique L'Entrepôt.
Sylvain, en février, je m'occupe de te faire tomber en amour.
Comment?
Je te parle de couvre-plancher, évidemment.
Évidemment!
C'est notre vente coup de cœur en février. Les plus belles nouveautés sur le marché, dans la céramique, le vinyle clic et les bois flottants, sont réduites jusqu'à 40 %.
OK, j'en connais plusieurs qui vont tomber en amour.
Oui, monsieur. Et pour réchauffer l'ambiance, Sylvain, on vous offre 10 % de rabais sur les planchers chauffants.
Ah ben là, j'avoue, j'ai une émotion. Mais ça, c'est en février seulement chez Céramique L'Entrepôt 850 Pierre-Bertrand, face à l'entrepôt du hockey.
Jusqu'au 18 février, c'est la grande liquidation d'hiver chez Sail. Équipez-vous pour profiter de la saison sous tous ses angles et obtenez jusqu'à 50 % de rabais sur une vaste sélection de manteaux, de bottes et d'équipements de sport d'hiver. Sail. La plus grande destination plein air. Tous les détails à sail.ca.
La marque Griffe Cuisine. La cuisine parfaite.
La cuisine dont vous rêvez.
C'est un projet griffé.
Un projet Griffe Cuisine. Leurs extraordinaires designers manient les couleurs, les textures et le mouvement avec instinct et expérience.
Et elles ont le don de nous toucher droit au cœur. On dirait qu'elles lisent dans nos pensées.
Le résultat? La cuisine de vos rêves.
Une cuisine griffée.
Griffe Cuisine.
Faites votre marque avec Griffe Cuisine.
Le XC60 de Volvo a été désigné véhicule le plus sécuritaire jamais testé en Europe. Il a également gagné le prix très convoité du véhicule mondial de l'année 2018. Et lorsque dans le confort de son habitacle de conception scandinave, vous affronterez sans effort nos hivers québécois, le XC60 gagnera aussi votre cœur. Le XC60 2019 de Volvo offert à partir de 49 500 $.
Détails chez Volvo de Québec. VolvoDeQuébec.com.
Pour louer, c'est Kangaloo.com.
Que ce soit pour un loft ou un studio,
Kangaloo.
Un appart ou un condo,
Kangaloo.
Facile de louer,
Kangaloo.
Facile de trouver,
Kangaloo.
Facile de louer.
Pour louer, c'est Kangaloo.com.
Pour la Saint-Valentin, laissez-vous séduire. Rendez-vous chez TELUS et économisez jusqu'à 40 % sur certains accessoires. Faites vite, cette offre irrésistible prend fin le 14 février 2019. Les conditions s'appliquent.
L'unique, l'irremplaçable avant-match avec Dan Pou. FM 93.
Hi everybody, this is Joe Sakic here. I just want to welcome all the players to the International Pee Wee Tournament in Quebec City. I was lucky enough to play there for 7 years, had a great time. People are amazing, such an unbelievable hockey town. I just hope everybody gets to not only enjoy the hockey, but enjoy the city and the food and everything it has to offer. It's a thrill of a lifetime for all you players. And like I said, I just want you to enjoy every minute of it.
Ce que vous venez d'entendre, c'est la capsule du jour du tournoi international de hockey Pee Wee, 60e édition. Depuis quelques mois déjà, ils vous présentent des capsules chaque jour. Aujourd'hui, c'était Joe Sakic, c'est ce qu'on vient de vous présenter. On va jaser de cette édition quand même symbolique qui débute demain matin au Centre Vidéotron avec le directeur général Patrick Dome, qu'on joint à l'instant au téléphone. Salut Pat!
Hey, salut Dan!
Comment vas-tu?
Ça va bien. Je ne cache pas que c'est... Ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi... Fébrile, à l'aube d'un tournoi, là, cette année, c'est un peu...
Pourquoi?
La tempête me rentre dans le corps.
Ah, OK. T'as peur de la tempête pour demain?
Ben, j'ai pas peur. Je pense qu'écoute, ce dont on a le contrôle,
oui.
Ça va bien. C'est ce qu'on contrôle pas, ben écoute, on peut rien faire.
C'est ça.
Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de prévoir, d'essayer d'imaginer les scénarios X, Y, Z. Il y a une petite cellule de crise là qui est déjà mise en place depuis quelques jours, deux jours,
okay.
Pour s'assurer pour demain. Là, on reçoit des appels. Là, les gens sont pris un peu partout. Là.
Ok. Est-ce que diriger la 60e édition, c'est plus stressant que la 52e?
Non. Ben oui. Oui, je sais pas. Tu me poses une bonne question. Dan, sincèrement, je te dirais que on a Ça, sur, encore une fois, je reviens, ce qu'on n'a pas le contrôle, c'est un peu difficile. T'sais, on parle des joueurs, on voulait avoir Bobby Orr, puis Bobby, on savait qu'il s'en allait sur une opération.
Ouais.
Et ça, c'est un peu, bon, écoute, c'est dommage, on aurait aimé ça. Bon, mais je pense que quand même, on a remplacé par Raymond Bourque, Marcel Dionne. Je pense que les gens vont être contents quand même. Donc, c'est ce qu'on n'a pas sous notre contrôle qui est le plus stressant. Puis cette année, au 60e, bon, on en a un peu plus que les autres années. Donc, c'est là que ça devient un peu plus stressant.
OK, parfait. Cette année, les Russes reviennent. Pourquoi cette année?
Parce que la mauvaise conduite, la punition de mauvaise conduite était terminée. Hein?
OK.
Fait que, mais non, ils ont appliqué, puis on s'est dit, ben écoute, ça fait quand même plusieurs, quoi, 4-5 ans qu'ils n'étaient pas venus, là, puis qu'ils le savaient. Mais je pense qu'ils sont quand même très bien avisés. Je pense que ça va bien se passer. J'ai pas de doute là-dessus.
Est-ce que, dans ce temps-là, Pat, est-ce qu'il faut que tu leur fasses une mise en garde? Puis dans quelle mesure c'est les mêmes intervenants qui étaient là il y a 5, 6, 7 ans?
Non, c'est un club complètement différent.
OK.
Mais il faut savoir aussi que les problèmes qu'on avait eus dans le passé étaient aussi d'organisations différentes. Donc, c'était peut-être une culture, une mentalité ou une culture qui était un peu plus différente de la nôtre quand ils arrivent à Québec. Mais je pense que, sans dire, tu sais, faut pas non plus être sur la paranoïa puis de toujours être sur leur dos puis d'assurer que ceux qui vont faire quelque chose de croche, qu'il faut leur tomber dessus, là. C'est pas ça qu'on va faire, mais pas du tout. Je pense que ce qu'on leur demande, tant à eux qu'aux autres équipes, c'est d'avoir un comportement responsable, puis de se dire, savez-vous quoi, on est content de vous accueillir, vous êtes ici à Québec, ça nous fait plaisir, agissez en conséquence.
OK. Est-ce que quand tu organises ta grille horaire, tes informateurs aux quatre coins de la planète te donnent vraiment le calibre des équipes où, en cours de tournoi, des fois, tu as des énormes surprises, tu dis, ah ouais, les autres, Caroline, sont rendus en demi-finale, mais je pensais qu'ils allaient perdre leur première game.
Ben c'était le cas des Russes la dernière fois. La dernière fois, pourquoi ils ont été rejetés du tournoi pour quelques années, parce que ce qu'on avait vu comme vidéo de l'équipe qu'on pensait avoir à Québec, puis les joueurs qui sont arrivés, il y avait un monde entre les deux. Là. Okay. Donc, c'est sûr que maintenant, avec Internet, avec tout ce qu'on est capable d'avoir comme information, avec les tournois qui se passent en dehors, avec le broadcast, tout ça sur le web, c'est plus facile pour nous maintenant d'être capable de voir vraiment le bon calibre, de placer les bonnes équipes. C'est sûr qu'il y aura toujours un 10-1 à quelque part.
Oui.
Et bon, ça fait partie des plans futurs du tournoi, d'avoir peut-être une classe un peu plus faible, bon, pour les équipes comme le Mexique, les équipes de France ou d'Italie, pour essayer d'avoir un peu ce calibre-là. Il faut les avoir, mais un jour ou l'autre, quand ils arrivent contre des Lobinières ou des clubs de Beauce, c'est peut-être plus difficile pour ces équipes-là. Donc, ça fait partie, c'est sur nos tables à dessin, de voir que on va peut-être rajouter une division quelque part au tournoi et d'agrandir les cadres du tournoi.
OK. Actuellement, il y a du 3A, du 2A élite, évidemment, on descend. Il y a la classe scolaire également qui a été agrandie cette année.
Oui.
Est-ce que tu as des équipes, les gens qui nous écoutent actuellement, qui disent « Ouais, j'aimerais ça y aller », y a-tu des équipes ou des joueurs qui sortent de l'ordinaire avant même que le tournoi débute?
Non, pas cette année. Okay. Mais il y en a. Hein. C'est sûr qu'il y en a quelque part. Là. Mais bon, je me souviens des petits Poulains puis de Xavier Parent,
oui.
Ou des joueurs comme ça, qu'on savait là, que c'est quelque part, ça allait être des joueurs vedettes. Là. Mais tu vois-tu, on regarde où les Poulains, ben, peut-être pas, mais que ce soit Poulain ou Parent, c'est pas des joueurs qui sont nécessairement très excessivement dominants dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, alors qu'il l'était quand il était Pee-wee. Donc, le 2-3 ans de différence entre les deux sont énormes. Mais au moment où on se parle, non, on n'a pas nécessairement de joueurs, mais je pense que malgré tout, à tous les ans, on va en découvrir un, on va en découvrir deux au fur et à mesure du tournoi dont on va voir, là, c'est sûr que le talent va sortir à quelque part.
OK, on rappelle évidemment l'ouverture du tournoi, c'est samedi 13h avec les petits remparts, puis dimanche 13h avec les mini-nordiques. Patrick, est-ce que la gestion de la croissance, au-delà du nombre de matchs, puis du nombre d'équipes, puis des équipes que vous refusez, est-ce que tu dirais qu'elle se situe beaucoup plus dans l'aspect corporatif? Est-ce que le tournoi Pee-wee, c'est devenu finalement une grosse business?
Moi, c'est comique parce que après le tournoi, on a toujours un peu un recap. Là. On fait un wrap-up du tournoi. Puis avec le conseil d'administration, et oui, effectivement, un premier des choses, on a engagé deux nouvelles personnes, nous, cette année au tournoi Pee-wee. Là. Donc, on est rendu à un stade où on était quatre, on est rendu six à temps plein au tournoi.
Okay.
Et le tournoi, c'est rendu un événement.
OK.
c'est vraiment un événement.
C'est plus juste un tournoi de hockey. Québec, hein?
Là. Et mais le tournoi est l'événement. Mais effectivement, tout ce qui se passe autour du tournoi maintenant est rendu beaucoup plus gros. Je pense juste la personne, une des personnes qu'on a engagées, c'est une personne au niveau des communications, des réseaux sociaux, okay. Parce que c'est rendu. Puis en plus que c'est notre target, c'est notre cible principale. Là. Donc on est rendu là. Et oui, Dan, t'as entièrement raison. C'est rendu beaucoup plus corporatif. Mais c'est quand même, faut jamais oublier, moi je dis toujours là. À quelque part, c'est grâce au tournoi si on est là. Mais oui, le tournoi a fait du tournoi Pee-Wee un événement.
Parfait. Un gros merci, Patrick. Bon 60e à toi.
Et merci à toi, Dan.
Bonne soirée. Patrick Dom, directeur général du tournoi Pee-Wee. Ça débute demain au Centre Vidéotron. C'est tout pour ce soir. Je vous dis bonsoir. Merci.
Les meilleurs moments de l'avant-match sont disponibles maintenant sur fm93.com. FM 93, ça me parle.
L'avant-match est présenté.